Ouais, tout le monde dit, OK, c'est beau. Donc, on commence. On va peut-être commencer par un mot de prière. Ensuite, on va commencer notre étude. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour toutes ces choses que tu nous montres dans ta parole, que tu veux qu'on connaisse, Seigneur, parce que c'est pour ça que tu nous as donné ta parole. Puis tu veux qu'on sache qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que toi tu as fait, ton grand plan. Puis quand on apprend ces choses, Seigneur, ça nous amène à te louer, à t'adorer pour un plan si merveilleux de salut que tu nous as pourvu. On te rend grâce, on te demande ton aide ce soir dans ta parole et avec l'aide de ton esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, quand on pense au sabbat, le sabbat, c'est quelque chose qui entoure les fêtes de l'Éternel parce que ça commence avec le sabbat, puis dans Lévitique 23, puis ça termine aussi par des sabbats, puis il y a des sabbats tout au long des fêtes. Le sabbat, c'est un thème qui est mal compris souvent. Il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, on doit garder le sabbat, mais ils ne comprennent pas vraiment ce que le sabbat représente. C'est ça qu'on veut regarder un peu ce soir, là. Mais avant de décrire les fêtes, on va parler du sabbat parce que c'est important. C'est le fondement, vraiment, le sabbat, c'est le fondement du plan de rédemption de Dieu, du fait que ce n'est pas nous autres qui faisons les œuvres. C'est le Seigneur qui a fait l'œuvre de rédemption pour nous autres. Tout ce qu'on a à faire, nous autres, c'est de le recevoir comme un don. Puis c'est pour ça que dans les fêtes, il y avait des sabbats. C'était pas eux qui travaillaient. C'était le Seigneur qui était à l'œuvre pour leur pourvoir ces fêtes qui représentaient leur rédemption et qui pouvaient, tout ce qui leur restait à faire, eux, c'était de se réjouir dans ces fêtes-là, puis de jouir du salut que Dieu avait accompli. Mais on voit que le sabbat était en rapport, la première mention du sabbat était en rapport avec la création, l'œuvre de création de Dieu, mais aussi il est en rapport avec l'œuvre de rédemption de Dieu. On va voir ça en avançant, là. Le sabbat représente une œuvre complète. Le sabbat représente une œuvre accomplie et complète. Puis c'est pour ça que c'est important dans les fêtes de réaliser que c'est le Seigneur qui a tout accompli pour notre rédemption. Puis, comme j'ai dit, eux, il ne restait qu'à se réjouir de l'œuvre accomplie de Dieu. Puis, c'est la même chose pour nous autres dans la rédemption. On se réjouit d'une œuvre tout accomplie qui nous a été offerte gratuitement parce qu'on n'aurait jamais pu payer. Puis, c'est pour ça que dans Éphésiens 2, 8, 9, il nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, qu'est-ce que ça représente le sabbat? On va lire premièrement quelques versets pour qu'on puisse se mettre dans le contexte de ce que le sabbat représente. Puis, une des choses qui est importante dans l'étude de la parole, c'est la première mention. Puis, on va lire la première mention dans Genèse au chapitre 1, la première mention du sabbat. C'est toujours important de vérifier la première mention d'un thème dans la parole de Dieu. Puis c'est un thème qui continue tout au long de la parole de Dieu. On va regarder quelques versets. Dans Genèse au chapitre 1, le verset 31 au chapitre 2, verset 3. Donc c'est quand Dieu a créé toutes choses. Au verset 31 du chapitre 1, il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, c'est important ici de comprendre que c'est pas un repos parce que Dieu était fatigué, mais c'est un repos quand tout était parfait, tout était accompli, tout était bon, c'était très bon. Puis il dit, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, puis le septième jour, il a béni ce jour-là, il l'a sanctifié, puis il s'est reposé de son œuvre. Donc, il faut garder en tête, il s'est reposé de son œuvre. Ensuite de ça, on va aller dans Jean au chapitre 5, les versets 17. En Jean 5, verset 17, on va aller lire ici le Seigneur Jésus qui parle parce que le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il faisait des guérisons le jour du sabbat. Puis les gens, les pharisiens, les scribes, ils l'ont critiqué à cause du fait qu'il faisait des guérisons le jour du sabbat. Puis au verset, peut-être on va regarder le verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Les autres étaient bien, le jour du sabbat, c'était bien important pour eux autres de ne pas faire aucune œuvre, mais le Seigneur Jésus guérissait des malades le jour du sabbat. Au verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc, il s'était reposé dans la création, mais maintenant il dit, jusqu'à présent, mon Père agit, puis moi aussi j'agis. On va aller dans Jean au chapitre 19 et le verset 30. Jean 19 et le verset 30. Toujours en rapport avec le sabbat. Quand le Seigneur Jésus était sur la croix, il a dit avant de mourir, au verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, tout est accompli, puis là, il se repose, il baisse la tête et il rend l'esprit. Maintenant, on va aller dans l'Apocalypse au chapitre 16. Apocalypse, chapitre 16, verset 17. Apocalypse 16, verset 17. On a une autre mention ici de quelque chose accompli. 16 et le verset 17 dit, le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Donc, c'est un peu la même expression, c'en est fait, c'est accompli. Maintenant, on va dans Apocalypse 21. Au verset 6, quand c'est le jugement de Dieu qui s'accomplit ici. Puis dans le chapitre 21 et le verset 6, il dit, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Donc il dit, c'est fait, c'est accompli. Il est maintenant l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Jésus est dans sa position. Et il va régner. Donc, on voit qu'est-ce que ça représente le sabbat. Le sabbat, c'était vraiment strict dans l'Ancien Testament parce qu'il fallait accomplir le sabbat. Même on parlait de lapider quelqu'un qui ne respectait pas le sabbat dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, on voit que la loi, c'était une ombre des choses à venir. Dans Hébreux 10, 1, il nous dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, il ne pouvait pas, dans la loi, dans l'Ancien Testament, on voit que le sabbat précède la loi qui avait été donnée à Moïse, mais l'Ancien Testament, c'était une ombre des choses à venir. Donc, on voyait dans ces choses-là des choses qui allaient être révélées plus tard. Dans Colossiens, au chapitre 2 et le verset 16 et 17, Paul dit ici que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, il y avait quelque chose dans l'Ancien Testament qui était représenté par le sabbat. Mais c'était une ombre des choses à venir, tandis que maintenant le corps est en Christ. Donc, l'accomplissement de ces ombres-là, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici, on voit que dans le Nouveau Testament, c'est différent. Il y en a qui nous disent qu'on devrait garder le sabbat comme le quatrième commandement, puis il y a des gens comme les Adventistes du septième jour, ils nous disent comment ça se fait que on peut garder tous les commandements sauf le quatrième. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas à garder les commandements pour être justifié. Eux, ils gardent les commandements pour être justifiés, puis ce n'est pas l'Évangile. Ça, c'est un mélange de loi et de grâce. Mais si c'est par la grâce, la loi et la grâce, ça s'exclut. Ça ne peut pas être ensemble, parce que si c'est par les œuvres, ce n'est pas par grâce. Puis si c'est par grâce, ça ne peut pas être par les œuvres. Donc, ça s'exclut mutuellement, la loi et la grâce. Donc, c'était C'était l'ombre des choses à venir, mais le cœur est en Christ. Puis si on essaie de garder la loi, comme ces gens-là nous disent qu'on doit garder la loi, eh bien, on va faire l'expérience de Romains 7. Puis, comme il est dans Romains 7, 24, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? La loi était donnée pour qu'on puisse reconnaître notre perdition, notre péché, notre condition de péché devant Dieu, mais la loi ne pouvait jamais amener à la perfection ceux qui offraient ces sacrifices-là, ceux qui faisaient, qui essayaient de garder la loi. Donc, ça amène à une conclusion. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Puis c'est là qu'on voit que Christ, c'est lui qui peut nous délivrer de ce corps de mort. Donc, on essaie de voir un peu, c'était pourquoi que dans l'Ancien Testament, on avait le sabbat, puis qu'est-ce que ça représente? Comme j'ai dit, la première mention du sabbat dans Genèse 1, verset 31, au chapitre 2, verset 3, ben, c'était la première mention du sabbat. Puis dans Hébreux 4, 4, il nous dit aussi, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Donc il y a une chose qu'on peut dire pour sûr, c'est que Dieu s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. C'est pas un repos parce que Dieu était fatigué d'avoir créé tout l'univers. C'est sûr que c'est une œuvre grande, mais Dieu n'est pas fatigué. Et Dieu n'a pas, ne s'est pas reposé le septième jour parce qu'il était fatigué, mais c'est vraiment un repos parce que tout était complet. C'est un repos parce que toute l'œuvre est achevée. Comme on a vu, le Seigneur Jésus s'est reposé sur la croix quand tout était accompli. Puis quand le jugement dans l'Apocalypse il va être accompli, c'en est fait. Et quand le Seigneur va être placé dans sa position alpha et oméga, tout va être accompli. Donc, le sabbat qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est un repos qui représente une œuvre parfaitement accomplie. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Puis, c'est ce qu'on voit dans la première mention dans Genèse au chapitre 1, verset 31. C'était très bon que la parole de Dieu nous dit. C'était très bon. Donc, en étant très bon, il n'y avait plus rien à faire. C'est un peu comme si un artiste peintre a fait une belle peinture, puis que là, maintenant, elle est complète. Puis moi, j'arrive, puis je dis, attends un petit peu, je vais ajouter quelque chose. Il me dit, non, 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 touche pas à ça. Tout est fait, tout est accompli, tu vas la gâcher. Puis c'est comme ça, c'est une œuvre. L'œuvre de création était complète. Il n'y avait rien à ajouter à l'œuvre de création. De la même façon, quand on voit dans Jean 19, 30, quand le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli, l'œuvre pour notre salut, l'œuvre qui avait besoin d'être accomplie pour notre salut, le sacrifice parfait de Christ, il était accompli. Puis c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. Puis dans l'Apocalypse, au chapitre 16, au verset 17, quand il dit, c'en est fait, ça veut dire que c'est le jugement qui est accompli. Puis dans l'Apocalypse 21, 6, ben, quand il dit c'est fait, c'est que le Seigneur Jésus est dans sa place, dans sa position, c'est tout, que c'est accompli. Donc, ce n'est pas un repos parce qu'on est fatigué, c'est un repos parce que tout est complet, tout est accompli. Quand Dieu a créé l'univers, son œuvre de création était parfaite. Mais quand l'œuvre de rédemption va être complète, il va maintenant, là, on va voir encore un autre repos. Un repos que Dieu. Tout doit être. Parce que l'œuvre pour notre rédemption est tout accomplie par le Seigneur Jésus, mais il reste encore à nous rassembler dans la présence de Dieu pour l'éternité. Puis à ce moment-là, on va connaître un repos. On va regarder ça ensemble. Donc, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand Dieu s'est reposé dans la Genèse, c'est parce que tout était parfait. Tout était beau, il n'y avait plus rien à faire. Mais du moment que le péché est entré dans le monde, quand le péché est entré dans le monde, Dieu s'est remis à l'œuvre. Puis c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, et jusqu'à présent, mon Père agit, puis moi aussi j'agis. Parce que depuis que le péché est entré dans le monde, Dieu a commencé à travailler. Il a recommencé à travailler pour son œuvre de rédemption. Puis, il va y avoir un repos dans cette œuvre de rédemption-là à un moment donné. Peut-être qu'on va aller dans Genèse chapitre 3 au verset 16 à 19. Ça, c'est quand le jugement est venu. Genèse 3 et les versets 16 à 19. Il nous dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Et puis, en anglais, on dit c'est des labeurs. Donc, c'est un travail. On parle des travails quand une femme accouche. Et on dit être en travail. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, pour la femme, c'était un travail des douleurs pour donner naissance à un fils, à un enfant. Pour l'homme, il dit au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Puis, regardez, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, c'était le travail. L'homme devait maintenant, à la sueur de son front, travailler pour, parce qu'avant ça, il était nourri par les arbres du jardin sans travailler. Il s'occupait du jardin, mais c'était pas pour, il travaillait pas pour se nourrir. Mais maintenant, il doit travailler, il doit, à la sueur de son front, tirer la nourriture qu'il a besoin. Ça, c'est pour donner la vie. La femme, elle, c'était pour donner la vie dans les douleurs, dans le travail. Et l'homme, c'était pour soutenir la vie par la nourriture. Il devait trouver la nourriture, aller tirer la nourriture du sol qui avait été maudit par un labeur à chaque jour. Donc, c'est donner la vie, la femme qui donnait la vie par le travail, et l'homme qui pourvoyait pour la vie, pour la nourriture, à la sueur de son front. Donc, mais Dieu, dans son amour, puis ça, si ça avait été, si ce n'était pas de l'œuvre de rédemption, mais ça aurait continué comme ça. Mais Dieu, dans son amour, lui a pourvu à une œuvre de rédemption qui est encore plus grande que l'œuvre de création. L'œuvre de création, ça a pris 6 jours de créer toute chose. Mais maintenant, ça fait des mille ans là, que Dieu, on est rendu comme à 6 000 ans, que Dieu travaille à la rédemption de notre âme pour qu'on puisse être avec lui. Dans l'Apocalypse 4, il est adoré à cause de son œuvre de création. Dans l'Apocalypse 5, il est adoré pour son œuvre de rédemption. Donc, on voit que à cause du péché qui est entré dans le monde, Dieu s'est remis à l'œuvre. C'est pour ça, comme on a dit tantôt, que le Seigneur Jésus a dit, jusqu'à présent, mon Père travaille ou mon Père agit jusqu'à présent, puis moi aussi j'agis. Le Seigneur Jésus y agissait au moment où il était sur la terre pour accomplir cette œuvre de rédemption. Puis, parce que Jésus avait guéri, les autres, ils l'avaient critiqué parce qu'il avait guéri quelqu'un qui était paralysé depuis 38 ans, puis il l'a fait le jour du sabbat. Puis les autres, le Seigneur Jésus avait compassion de cet homme-là qui était paralysé pendant 38 ans, mais eux, ils n'avaient pas de compassion pour cet homme-là. Parce que puis tout ce qu'ils regardaient, c'est qu'il avait fait ça le jour du sabbat. Puis il dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Puis là, c'est là que le Seigneur Jésus leur a dit, il veut leur montrer une leçon. Il veut leur dire que lui a compassion. Puis comment est-ce que lui pourrait se reposer à cause de son amour pour nous? Comment il peut se reposer quand nous, on est dans le péché? Quand nous, on n'est pas rachetés de nos péchés, puis qu'on est dans la malédiction, le Seigneur Jésus ne se repose pas. Donc, il y avait compassion de cet homme-là. Puis il leur dit dans Matthieu 12, au verset 11, il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer. Il leur dit ça à eux autres. Il dit, OK, là, vous êtes insultés que je fais des guérisons le jour du sabbat, Mais c'est lequel de vous qui a juste une brebis, puis qu'elle tombe dans un puits le jour du sabbat, puis que vous allez la laisser là dans le puits? Non, non, vous allez la sortir du puits, parce que vous avez compassion de cette brebis-là, vous ne voulez pas la perdre, puis vous voulez la sauver, puis vous allez aller la chercher le jour du sabbat. Vous allez violer le sabbat pour aller chercher cette brebis-là. Puis le Seigneur, il leur dit ensuite, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, là, mais le Seigneur, il leur dit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? On sait qu'aujourd'hui, aux yeux du monde, un homme ne vaut pas plus qu'un animal. Mais pour le Seigneur Jésus, il dit combien un homme, si eux autres se mettaient en peine pour une brebis, il dit comment est-ce que moi je ne me mettrais pas en peine pour un homme qui vaut beaucoup plus qu'une brebis? C'est ça qui. Mais donc le Seigneur, il leur montre ici que lui ne peut pas se reposer. Tant que la rédemption n'est pas accomplie, tant qu'on n'est pas avec lui dans le ciel, le Seigneur Jésus, c'est sûr qu'il est assis à la droite de la majesté divine parce que l'œuvre pour nous procurer le salut est accomplie, comme il l'a dit sur la croix du Calvaire, mais il reste encore à nous rassembler dans la présence de Dieu. Puis le Seigneur, il ne se repose pas. Puis il dit dans Ésaïe au chapitre 62, dans Ésaïe au chapitre 62, en ce qui concerne Jérusalem, c'est sa ville, la ville Sion, la ville où il a mis son nom. Puis il dit dans Ésaïe 62, au verset 1 et 2, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Donc, il dit, je ne prendrai pas de repos pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, jusqu'à ce que son salut paraisse. Donc, le Seigneur est à l'œuvre, il ne va pas se reposer jusqu'à temps que son salut paraisse, puis que la délivrance arrive. Mais le Seigneur a pourvu un repos, mais il veut, puis c'est pour ça que dans les fêtes, on va voir beaucoup de sabbats, beaucoup de repos, parce que Dieu veut maintenant que l'homme cherche ce repos-là. Puis, c'est de chercher le salut. Le Seigneur, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Puis, il veut qu'on cherche le salut en tant que homme pécheur perdu, femme pécheresse perdue. Il veut qu'on recherche le salut de Dieu. Puis, le Seigneur, il veut qu'on cherche. Il a pourvu le salut, mais il veut qu'on cherche. Puis dans Genèse 5, 29, on voit que dans l'Ancien Testament, ils cherchaient ce salut-là. Parce que Lamech, il a donné le nom à son fils, il l'a appelé Noé. Puis pourquoi qu'il l'a appelé Noé? Ça dit en disant, celui-ci nous consolera de notre fatigue et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc Lamech, il a appelé son fils Noé parce que lui, il cherchait le repos. Il cherchait le repos que le Seigneur, il dit, celui-ci va nous donner le repos, que il va nous donner le repos, il va nous consoler de nos fatigues et du travail pénible que de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Voyez-vous, c'était ça le sabbat dans l'Ancien Testament, c'est quand il travaillait pendant 6 jours, il travaillait à la sueur de son front, pour l'homme travaillait à la sueur de son front, pour pourvoir la nourriture, la femme aussi qui travaillait pour donner naissance, eh bien, on dit que la femme, après qu'un fils est né, elle oublie la douleur qu'elle a eue. C'est ça le repos. Là, maintenant, elle a le repos parce que l'enfant est né, elle a mis au monde un enfant, puis sa douleur s'arrête là parce que le travail est accompli. De même, l'homme, après avoir travaillé 6 jours, d'un dur labeur à la sueur de son front, maintenant il entrait, il avait hâte au septième jour pour se reposer. Puis c'est ça, c'était de chercher le repos que Dieu avait pourvu pour lui. Puis c'est au sens spirituel, on doit chercher ce repos-là. Mais les gens qui sont dans des religions ne cherchent pas ce repos-là, ils veulent continuer de travailler sans jamais avoir d'assurance par rapport à leur salut. Mais nous, quand on a trouvé, quand on a cherché le salut en Dieu, un salut tout accompli, bien, on se repose de ces œuvres-là pour le salut. on va travailler, on va voir qu'on travaille encore, mais on ne travaille pas pour le salut. On travaille parce qu'on est sauvé, pour, en reconnaissance, parce qu'il y a un travail encore à faire. Mais par rapport à notre salut, il n'y a plus rien à faire. Tout est accompli. On a un salut gratuit qui nous a été donné, payé par le Seigneur Jésus-Christ. Puis maintenant, on n'a qu'à se reposer dans dans ce salut-là par rapport au salut de nos âmes. C'est pour ça qu'il dit dans Hébreux 4, 9, il dit, Hébreux 4, 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Voyez-vous comment est-ce qu'on doit rechercher ce repos-là, ce sabbat-là? Puis c'est comme ça que dans l'Ancien Testament, quand ils ne gardaient pas le sabbat, c'est comme s'ils disaient, ils ne voulaient pas du repos que Dieu leur pourvoyait à la fin d'une semaine de labeur. Ils ne voulaient pas le septième jour, pour eux, il n'était pas sanctifié. Puis c'est triste de penser à ça quand le Seigneur leur avait donné comme signe de ce repos-là, le septième jour, pour pouvoir se reposer. Puis on voit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui combien les gens ne veulent pas se reposer. Ils veulent faire leur propre religion, même si les gens sont religieux. Ils disent, ah ben moi, je ne fais pas de mal à personne. Puis les gens, ils nous disent ces choses-là. C'est tout basé sur leurs œuvres. Mais nous, on recherche le sabbat de Dieu. On recherche le repos de Dieu dans une œuvre, dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui a été parfaitement accomplie pour nous. Mais c'est pour ça que Dieu voulait que l'homme ait cette attente du septième jour, pour pouvoir se reposer. Mais s'il ne gardait pas ce jour-là, ben c'est comme s'il négligeait un si grand salut. Puis, mais parce que ce repos-là, il était complètement sur l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand le Seigneur Jésus a dit dans Jean 19:30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, on se repose pour notre salut dans une œuvre complètement accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la provision est donnée. Ça, c'est pour la provision de notre salut. Mais le sabbat, le repos du sabbat, il va être proclamé quand tous ceux qui sont sauvés vont être rentrés dans le repos de Dieu pour l'éternité. Mais maintenant, on voit qu'on a besoin de travailler encore. Parce que, pour ça qu'on ne garde pas le sabbat dans le Nouveau Testament, parce qu'on est à l'œuvre. Puis, pas pour notre salut, mais c'est une œuvre différente. C'est parce que le Seigneur nous a donné un travail à faire. On est entré dans son œuvre de rédemption. Puis le Seigneur nous a donné un grand travail à faire. Puis il nous dit dans le Nouveau Testament qu'on est des prêtres et des sacrificateurs, des rois et des sacrificateurs pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir pour s'en aller au ciel après sa résurrection, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc maintenant, lui, il nous a donné un travail à faire. On est entré dans son travail. Puis, encore une fois, on se repose quant à notre salut, mais dans l'œuvre de rédemption de Dieu, on est devenu participant avec lui. On est le corps de Christ et on agit sur la terre comme le Seigneur Jésus jusqu'à présent. Mon Père agit, moi aussi j'agis, mais maintenant nous aussi on agit pour le salut des autres. Puis le Seigneur a dit quelque chose qui était remarquable parce que dans Matthieu 12 au verset 5, le Seigneur a dit, ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? C'est sûr, les sacrificateurs travaillaient dans le jour du sabbat. Ben oui, c'était là qu'ils travaillaient dans le temple parce qu'ils offraient les sacrifices et eux, ils violaient le sabbat sans se rendre coupables. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des prêtres qui officiaient pour Dieu. La même chose pour nous autres maintenant. On viole le sabbat dans un sens sans se rendre coupable parce qu'on est des prêtres, on est des sacrificateurs pour Dieu. On agit pour lui. Puis on va rentrer avec lui dans son repos quand l'œuvre va être complètement accomplie, que tous les sauvés vont être dans sa présence pour l'éternité. Dans Luc, au chapitre 19, au verset 13, il dit, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir. En anglais, il dit, soyez occupés, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Donc, notre repos, nous autres, il va être quand le Seigneur Jésus va revenir. Mais en attendant, on travaille. On viole le sabbat dans le temple. On est dans le temple, un temple, pas un temple fait de main d'homme, mais un temple spirituel. Dans la présence de Dieu, on agit, on continue de travailler la grande commission que le Seigneur nous a donné de faire. Il nous a dit aussi de s'édifier les uns les autres sur notre très sainte foi, s'encourager. Alors, il nous a dit d'adorer. On adore et aussi on prie, on a des requêtes et on a la communion fraternelle, on agit, on n'est pas. Pour ça que le sabbat, c'est pas pour nous autres dans le Nouveau Testament. C'est sûr que c'est quand on pense à une journée qu'on peut se reposer, ben c'est bienvenu. Mais quand même, par rapport au sabbat, qu'est-ce que le sabbat représente? Quand l'œuvre va être complètement accomplie, quand elle va être terminée, là, on va pouvoir se reposer avec le Seigneur. On va garder le sabbat éternel. Dans Hébreux 4, 10, il dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Un frère qui a mentionné le chapitre 4 de Hébreux. C'est vrai que le chapitre 3 et 4 d'Hébreux nous parlent de sabbat, un repos de sabbat. Puis le repos, c'est se reposer. C'est le repos, dans un sens, dans Hébreux 3, 4, c'est un repos de victoire sur le péché. Quand on a vaincu le péché, on se repose. C'est ça qui est un repos. Mais aussi un repos éternel qu'on va garder avec le Seigneur dans l'éternité. Donc, il nous a donné de. On anticipe ce repos-là autant que dans l'Ancien Testament, après avoir travaillé 6 jours, il anticipait le septième jour pour pouvoir se reposer. Puis ça le représente. Nous autres aussi, on est dans l'attente de ce repos-là. On va se reposer dans ça. C'est pour ça qu'on est à l'œuvre présentement. On est à l'œuvre présentement. On sert le Seigneur. On est des prêtres, des sacrificateurs et des rois qui servent le Seigneur dans le temps présent pour amener des âmes à lui. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est pour ça ceux qui nous disent qu'on doit garder le sabbat, Paul dit que personne ne vous juge au sujet des sabbats, des nouvelles lunes, des fêtes, toutes ces choses-là. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Mais maintenant, il faut comprendre le but du sabbat, qu'est-ce que c'était. On va le voir dans les fêtes. Il se reposait dans les fêtes. Il y avait des sabbats durant les fêtes. Toutes les fêtes étaient entourées de sabbats parce que ça représentait l'œuvre que Dieu avait accomplie pour tous. Mais on voit, comme on a lu dans Apocalypse chapitre 16 et verset 17, là, quand le septième ange avait versé sa coupe dans l'air, il est venu une voix qui venait du temple dans le ciel, puis qui disait, c'est en effet. C'est en effet. Donc, c'est que la septième coupe qui est versée sur la terre accomplit, ça termine le jugement de Dieu sur la terre. C'est pour ça que là, c'est un repos aussi par rapport au jugement. C'est que le jugement est complet maintenant. Dans Matthieu 13, au verset 41, il dit que Matthieu 13, au verset 41, il nous dit ici, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc, les anges, on voit beaucoup dans l'Apocalypse, les anges qui donnent les jugements, qui versent les coupes de jugement, puis après ça, les justes vont resplendir. Ça va être le repos après que le jugement va être accompli. Puis, mais il va rester un autre travail à faire. Puis, ça va être l'établissement de l'état éternel. Puis ça va être le repos final. Quand il va avoir. On va aller dans l'Apocalypse au chapitre 21, les versets 5 et 6. Apocalypse 21, 5 à 6. Là, ça va être le repos éternel. Ça va être l'état éternel. Maintenant, tout va être accompli. Le millénium, tout va être accompli. Puis là, ça va être un repos qui va être un repos éternel. 21, 5 à 6, il dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Donc, c'est accompli, c'est complet. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc ici, c'est le repos éternel à ce moment-là. Tout, ça va être l'état éternel après toutes les dispensations, après le millénium et le jugement de Satan qui va être jeté dans l'étang de feu. Tous les morts vont être jugés, vont être jetés dans l'étang de feu. Ensuite de ça, ça va être le règne éternel du Seigneur Jésus-Christ. Puis là, ça va être le repos final, le repos éternel. Tout va être accompli parfaitement. Mais c'est là qu'on voit par rapport, faut pas oublier que le travail est venu par rapport à la malédiction à cause du péché. Puis le Seigneur, c'était pour donner la vie, la femme travaillait, et pour soutenir la vie, la femme, c'est l'homme qui travaillait pour tirer la nourriture de la terre. Le Seigneur pourvoit à ces choses-là. On voit dans Romains au chapitre 8, c'est le Seigneur qui va accomplir ça parfaitement. Dans Romains au chapitre 8 et les versets 17 à 25, il dit, OK, Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, donc la souffrance avant la gloire, et j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption et pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et vous, on est dans une attente comme dans l'Ancien Testament, pendant les 6 jours de travail, il était dans l'attente du septième jour pour pouvoir se reposer. Puis, ça représente pour nous que nous aussi, on est dans l'attente. On souffre, mais on est co-héritier avec Christ. On a une espérance sûre. Puis, quand le Seigneur, il va nous prendre avec lui pour nous emmener, nous délivrer de la servitude dans laquelle on est présentement, eh bien, on va connaître un repos éternel, le repos qui va être, on n'aura plus jamais à travailler. Vous savez, quand on travaille dans le jardin, l'homme gardait le jardin, mais ce n'était pas pénible, ce n'était pas à la sueur de son front, parce que la terre n'était pas maudite, puis on va servir Dieu dans l'éternité. Mais ça va être, ce ne sera pas fatigant, ça va être une activité merveilleuse qu'on va avoir. Mais quand on voit que le repos, le travail était par rapport à donner la vie dans le jugement qui avait été donné à la femme, elle allait enfanter dans la douleur, et que l'homme, pour soutenir la vie, devait tirer la nourriture de la terre à la sueur de son front, le Seigneur Jésus, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui. On va voir dans la Pâque, il s'est offert pour nous délivrer, nous donner la vie. Puis, dans la fête des pains sans levain, ben, il nous nourrit pour notre vie chrétienne. Donc, il donne la vie et il soutient la vie. Puis, c'est ça le repos qu'on a. C'est ça qui est le sabbat. C'est quand il y a des gens qui nous disent aujourd'hui qu'on doit garder le sabbat, ben, ils sont dans l'erreur. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça représente, le sabbat. Puis le sabbat, c'était un repos que Dieu avait pourvu pour nous, puis on doit l'anticiper, premièrement, dans le salut de notre âme. On doit chercher le Seigneur pour le salut de notre âme, chercher le salut de Dieu. Puis maintenant qu'on est sauvé, on doit chercher notre nourriture dans le Seigneur Jésus, qui lui a pourvu notre nourriture, puis nous donne la victoire sur le péché. Puis ça, c'est un repos aussi, quand on a la victoire sur le péché. Puis il va nous donner un repos éternel quand finalement, on va être transformé en un instant, en un clin d'œil. On va aller à la rencontre du Seigneur sur la nuée, puis on va être parfait. Là, ça va être, on va être dans l'état éternel avec le Seigneur, puis ça va être le repos éternel. J'espère qu'on peut comprendre un peu le sabbat avant de regarder les fêtes, parce que c'est toujours en rapport avec une œuvre complète, une œuvre accomplie. Ce n'est pas nous autres qui l'avons accomplie, c'est le Seigneur Jésus. Nous, maintenant, on cherche ce repos-là, mais on se réjouit dans ce repos-là qui nous a été pourvu par le Seigneur Jésus. Donc, c'est ça qui était le sabbat. Fait que je vais m'arrêter là pour tout de suite. Je vais vous donner l'opportunité de pouvoir faire des commentaires ou poser des questions. Si vous avez des questions, prenez votre micro.
Oui, Gérald,
Oui.
peux-tu faire un court commentaire entre le sabbat et le jour du Seigneur? Quand j'étais jeune, l'Église nous disait que le dimanche, il ne fallait pas travailler.
Oui.
Et t'aurais-tu un court commentaire à faire entre les deux?
Ben, c'est ça, c'est parce que c'est une mauvaise compréhension du sabbat, c'est que on a transféré le sabbat au premier jour de la semaine. Mais le sabbat, c'était le septième jour de la semaine. Puis c'est une erreur qui a été faite de mettre le premier jour de la semaine, c'est pas un sabbat. Mais c'est l'œuvre du Seigneur dans sa résurrection. Mais c'est rentré dedans. Mais c'est pour ça que ces religions-là sont encore dans un sabbat. Sont encore, ils sont dans l'ombre des choses à venir. Ils n'ont pas compris la réalité qui est en Christ. Mais vraiment, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité le premier jour de la semaine. Nous autres, on vit dans la réalité d'une œuvre tout accomplie. Mais eux autres, ils étaient encore sous la loi. Puis, ils ont juste transféré le sabbat au premier jour de la semaine au lieu de laisser le septième jour. Est-ce que ça.
Est-ce qu'on pourrait dire que le jour du Seigneur, c'est un jour privilégié pour les croyants de servir le Seigneur?
Oui, c'est sûr, mais c'est certain que si on se place dans le temps des apôtres, le premier jour de la semaine, c'était un jour de travail. C'est pour ça qu'on dit qu'ils prenaient le repas du Seigneur, c'était le souper. En anglais, ils disent « the Lord's Supper », parce qu'ils devaient travailler dans le jour, parce que le repos, c'était le samedi. Ils étaient dans une société qui ne travaillait pas le samedi, mais le premier jour de la semaine, c'était pas un jour. Nous autres, on vit dans un temps ici où le premier jour de la semaine, on a la fin de semaine, on a 2 jours, le samedi puis le dimanche. Mais c'est certain qu'on en profite pour pouvoir se rencontrer le dimanche, du fait qu'on ne travaille pas. Mais c'est pas un. Même les chrétiens auparavant, ils voulaient pas faire rien le jour le dimanche. Ils traitaient le dimanche comme un sabbat. Mais on sait que dans l'Ancien Testament, là, il faut même pas préparer leur nourriture. Il fallait que ça soit prêt le jour avant le sabbat. Mais c'est certain que c'est une bonne chose d'avoir le dimanche pour pouvoir se réunir. Puis quand eux, ils travaillaient, puis ils devaient faire le repas du Seigneur le soir, c'est sûr que c'est. Nous autres, on a un privilège là-dessus de le faire le matin.
On peut voir aussi, M. Saint-Laurent, que le Seigneur ne se repose pas non plus dans le ciel parce qu'il intercède pour nous à chaque jour, continuellement, jour et nuit.
Oui.
Et, notre Dieu aussi, il soutient toutes choses par par sa parole, hein, il soutient toute sa création. Alors, c'est pas du repos pour lui non plus, hein, c'est ça?
C'est ça. Et même pour Israël, comme on a lu dans Ésaïe, là, il dit, je ne me tairai point, il ne se reposera pas tant que le salut de Jérusalem paraisse. Il y a toute cette œuvre-là, il va faire son œuvre avec Israël, il fait son œuvre avec les croyants dans la rédemption, mais aussi il y a une rédemption pour Israël. Ça fait que lui, il est à l'œuvre depuis que le péché est entré, il n'a pas arrêté, il a continué à travailler. Par rapport à l'œuvre de sacrifice pour le péché, là, il est assis à la droite de Dieu. Mais quand Étienne a été lapidé, on voit qu'il a vu Jésus debout. Quand il a vu Jésus, il était debout pour l'accueillir, pour l'introduire dans sa présence. Puis tant qu'on ne sera pas avec lui dans l'éternité, il travaille pour nous, puis même il nous sanctifie, il nous prépare, puis un jour, il va compléter cette œuvre-là dans un instant, dans un clin d'œil, il va nous transformer complètement.
J'ai
Quand on
aimé.
est venu au Seigneur, on a trouvé le repos, hein?
Oui, c'est ça. Ouais. Le repos pour le salut de notre âme, oui. Mais on attend encore un repos. Bon, on a le repos dans le salut, parce qu'on a un salut qui est tout accompli, qui nous a été donné gratuitement. Mais on cherche un repos dans la victoire sur le péché. Puis on attend le repos quand on va être délivré éternellement dans la présence de Dieu. Fait il y a ces trois aspects-là du repos qu'on cherche,
Parce que
qu'on a.
ça me fait penser le verset qu'on connaît tous très, très bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Ça.
Ouais,
Oui,
c'est notre sabbat, en réalité, c'est
c'est ça, ouais.
de pas travailler pour notre salut.
C'est ça. Parce que, oui, il y a un repos qui est donné, puis un repos qu'on trouve. C'est que le repos qui est donné, c'est notre salut, puis le repos qu'on trouve, c'est la sanctification. En prenant son joug sur nous, en recevant ses instructions.
J'ai aimé, Gérald, le fait que tu as sorti le sabbat des commandements de la manière dont tu as fait l'explication.
OK, ouais. Ouais, parce que c'est subtil. J'ai entendu souvent les adventistes dire ça, comment ça se fait que le quatrième commandement n'est pas bon? C'est juste que eux, ils gardent, puis ils se disent chrétiens, mais ils sont sous la loi pour la justification. Puis c'est peine perdue là, d'essayer d'être justifié. Puis ils mettent l'emphase sur le sabbat, mais qu'est-ce qui arrive de tous les autres commandements? Mais ils comprennent pas que c'était l'ombre des choses à venir. Mais l'accomplissement de ces choses-là se trouve dans la personne du Seigneur Jésus-Christ.
Gérald, les Juifs qui ont rejeté le Messie, dans le fond, à Israël, présentement, eux autres, ils doivent avoir le sabbat encore.
Les Juifs, ouais, les seuls, sont encore sous la loi, ouais, parce qu'ils ont rejeté, justement. Ouais.
OK.
Ils ne peuvent pas faire les sacrifices présentement parce qu'ils n'ont pas le temple. Ils se rencontrent dans des synagogues, mais ils gardent le sabbat. Mais ils veulent recommencer les sacrifices. Ils veulent reconstruire le temple. Puis, ouais, parce qu'ils sont encore sous la loi. Ils ont rejeté puis ils auraient dû être comme la Mecque. Qui, en donnant le nom de Noé à son fils, il dit, c'est lui qui va nous donner le repos, puis c'était en prévision de celui qui viendrait nous donner le repos, mais ils n'ont pas pris le repos. Même lui, il leur montrait qu'il travaillait le jour du sabbat parce qu'il n'est plus dans le sabbat parce qu'il est en train de travailler à l'œuvre de rédemption. Un jour, ça va être le sabbat. Le
Merci.
repos éternel.
J'ai envie de partager une petite remarque d'un ami qui m'a dit un jour, Lévi, je ne comprends pas que tu ne suives pas le sabbat. Alors, je lui avais mentionné les passages en Colossiens. Alors, je lui ai dit, si un jour ma maison passera au feu, puis je serai ton voisin, tu viendras-tu m'aider? Il dit non. Il dit, je n'irai pas t'aider. J'ai dit, toi, là, j'ai dit, si ta maison passe au feu le jour du sabbat, j'ai dit, moi, vas-tu pouvoir aller t'aider? Il dit oui.
Mais c'est comme la brebis qui tombe dans le puits le jour du sabbat, ben, il n'hésitait pas à l'en sortir. Même si c'était le jour du sabbat, il n'hésitait pas à l'en sortir. Mais le Seigneur a dit, comment est-ce qu'un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis? Puis le Seigneur il était comme ça, quand il voyait les foules, il avait de la compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le Seigneur était rempli de compassion pour nous autres, puis merci Seigneur qui était plein de compassion. On en avait besoin.
C'est vraiment une belle présentation encore ce soir, Gérard. C'est bon. Merci
Merci.
beaucoup.
Le Seigneur vous bénisse.
Une question, Gérard.
Oui.
Est-ce que, par curiosité, est-ce qu'un juif qui allait chercher sa brebis ou c'est un animal, est-ce qu'il était puni parce qu'il avait violé le sabbat?
Le Seigneur n'en parle pas, non? Je crois pas à cause de l'urgence, probablement. Parce que c'est sûr que s'il attend au lendemain pour aller la chercher, la brebis qui est tombée dans le puits, elle va être noyée. C'était à cause de l'urgence parce qu'il se mettait en peine d'une brebis. Puis lui, le Seigneur, il jugeait le Seigneur. Parce que quand il disait ces choses-là, le Seigneur, il les mettait en question devant ce qu'eux, ils faisaient. Il leur disait, regardez, vous autres, quand vous allez chercher votre brebis dans le puits, là, vous n'en faites pas de cas. Puis moi, j'ai guéri quelqu'un qui ça faisait 38 ans qui était paralytique. Puis vous allez me juger parce que j'ai eu de la compassion pour lui le jour du sabbat. Puis c'est la même chose qu'avec la femme pécheresse. Si on dit, regarde, Moïse nous dit dans la loi qu'elle doit être lapidée. Mais il dit, OK, que celui qui est sans péché, là, qu'il jette la première pierre. Le Seigneur, il s'était mis à écrire à terre avec son doigt. Puis là, après ça, il se lève, puis il leur dit ça. Il dit que celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Puis après ça, il se rebaisse à terre et commence à écrire avec son doigt. On sait que la loi avait été écrite par le doigt de Dieu. Puis est-ce que le Seigneur écrivait les commandements à terre, sur la terre, avec son doigt? Puis eux, en voyant les commandements, ils ont été accusés, puis ils ont parti. Mais le fait qu'ils écrivent deux fois, la première fois, quand Dieu a donné la loi, la première fois a été brisée, puis il n'y avait pas de remède si tu brisais la loi la première fois qu'elle a été donnée. Les tables de la loi ont été brisées, mais Moïse est remonté sur la montagne, puis quand il est remonté sur la montagne, la deuxième fois que la loi a été donnée, là, il y avait provision pour si tu brisais la loi. Puis c'est peut-être pour ça que le Seigneur, quand il écrit la deuxième fois, là, il dit, là, il y a une provision pour la femme pécheresse. Il dit, où sont tes accusateurs? Personne qui t'a accusé? Il dit, moi non plus, mais va désormais, ne pêche plus. Fait que le Seigneur, il montrait que quand la loi a été donnée, la deuxième fois que la loi a été donnée, il y avait une provision pour celui qui brisait la loi, parce que quand il a donné la loi la première fois, il est obligé de descendre de la montagne parce qu'il était déjà en train de la briser. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier commandement, il avait fait un veau d'or, puis il adorait un veau d'or. Puis Moïse, il a brisé les tables de la loi. Puis là, le Seigneur l'a monté, mais quand il est remonté sur la montagne, après ça, il y a eu une arche de fête pour garder les tables de la loi.
On a eu,
J'avais une
Gérald.
question, Gérald.
Oui.
T'en es
Excusez-moi.
plus? OK. OK. Peut-être Donna, puis après, c'est qui a de parler?
Gilbert.
Ah, Gilbert, OK. On va dire Dana, puis après toi, après ça va être toi, Gilbert.
J'avais une question. Les
OK.
Juifs, dans le temps du Nouveau Testament, est-ce qu'ils gardaient, disons, ils prenaient le repas du Seigneur, parce que la journée, le sabbat, disons, la journée commençait au coucher du soleil. Disons, le samedi soir, au coucher du soleil, c'était comme le premier jour de la semaine.
Ouais,
J'ai déjà entendu des fois, ils gardaient, prenaient le repas du Seigneur, disons, le samedi soir. Ou est-ce
au
que
coucher du
c'est...
soleil, oui. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est ça le premier jour de la semaine quand le Seigneur était ressuscité. C'est le matin du premier jour de la semaine qu'ils sont allés, qu'ils ont vu. Puis après ça, quand Paul, on voit qu'il prenait le repas du Seigneur le premier jour de la semaine, quand dans Acte 20, au chapitre 7, quand Paul était à Troas pendant 7 jours, puis le premier jour de la semaine, ils ont rompu le pain. Mais je pense qu'il allait quand même dans le temple. Ça prend un bout de temps avant qu'il coupe avec le temple, jusqu'à quand le temple a été détruit. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux a été écrite pour leur montrer qu'ils n'avaient plus besoin du temple, mais que maintenant la réalité était en Christ. Mais, je ne sais pas, j'ai jamais entendu ça, Donna, qui prenait le repas du Seigneur le soir, le samedi, mais je sais qu'il comptait, ouais, le premier jour de la semaine, il comptait à partir du coucher du soleil. Là, puis la Pâque, on voit qu'elle était immolée entre les 2 soirs, puis commençait tout de suite la fête des pains sans levain.
Oui. J'avais un autre commentaire, c'est parce que aussi aujourd'hui en Israël, dimanche, c'est un jour de travail. Puis
OK.
le sabbat, le samedi, c'est comme un congé.
OK, ouais.
Puis, en tout cas, je les connais pas, mais je les connais juste par l'aide de nouvelles des chrétiens qui font leur réunion le samedi.
OK.
Leur prédication ou l'école du dimanche, tout ça, c'est le samedi parce que le dimanche, c'est tout le monde va au travail. Est-ce que vous avez fait la visite en Israël? Est-ce que vous avez vu ça aussi ou comment ça marche pour les chrétiens en Israël aujourd'hui?
Moi, je ne sais pas, pour les chrétiens, on n'a pas été dans une réunion chrétienne, mais on voyait dans les hôtels, les Juifs, ils vont dans les hôtels le jour du sabbat, le samedi. Mais les chrétiens, je n'ai pas vu, mais ça se peut, si c'est un jour de travail, je pense que les chrétiens dans l'Église primitive, les chrétiens juifs, ils se réunissaient probablement le soir, parce que comme tu sais, en anglais, on dit « the Lord's Supper », c'est le souper du Seigneur. Gilbert, tu avais une question?
Oui, c'est que on a lu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 17, mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis.
Oui.
Heureusement que Jésus agit aujourd'hui, parce que moi j'ai été sauvé un samedi, j'ai été sauvé le jour du sabbat.
Ah bon?
Comprends-tu?
Oui. Oui. Ah oui, c'est bien
C'est
il observe pas le sabbat, il nous sauve n'importe quand. Ouais.
ça.
Ouais, merci Seigneur. C'est que le temps est arrivé. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être terminer par un mot de prière, puis ceux qui doivent partir pourront partir, mais s'il y en a qui veulent continuer de jaser, on peut continuer de jaser. C'est qu'on va terminer par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour le fait que tu t'es remis à l'œuvre, Seigneur, pour la rédemption. Pour notre rédemption, tu as pourvu un salut parfait dans le sacrifice de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, on se repose de nos œuvres, Seigneur, parce qu'on n'a plus besoin d'accomplir des œuvres pour le salut, mais on a reçu un salut qui nous a été offert gratuitement. Mais Seigneur, on te demande qu'on puisse rechercher ce repos-là dans la sanctification, dans la victoire dans nos vies sur le péché, comme. Puis aussi, Seigneur, on est dans l'espérance que bientôt on va être avec toi. Puis là, ça va être le salut et le repos éternel dans ta présence. On te remercie, Seigneur, du fait qu'on doit se réjouir comme dans les fêtes, ils se réjouissaient d'une œuvre de rédemption accomplie parfaitement. On te rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.